France Culture. Carnet de santé. Marina Carrère d'Ambos.
C'est la deuxième cause de décès dans le monde. Le, ou plutôt les cancers, ont fait près de 10 millions de morts en 2018, ce qui représente un décès sur 6. Et c'est la première cause de mortalité en France. Chaque année, dans notre pays, un peu plus de 400 000 nouveaux cas sont diagnostiqués, 57% chez les hommes, 43% chez les femmes. Et ces chiffres sont en augmentation, une hausse principalement due à l'augmentation et au vieillissement de la population. Mais les nouvelles ne sont pas que mauvaises. Plusieurs éléments incitent en effet, face à ces maladies qui inquiètent, à l'espoir. D'abord, de nombreux cancers pourraient être évités et là nous avons un rôle à jouer pour protéger notre santé. Un rôle aussi pour retrouver ces cancers le plus tôt possible et donc améliorer le pronostic et ça passe par le dépistage et la vaccination. Et puis, et cela est plus nouveau, les armes dont nous disposons face à ces maladies sont de plus en plus nombreuses à tel point que de nombreux chercheurs parlent de véritables révolutions thérapeutiques. C'est ce qui ressort du plus grand congrès de cancérologie qui se tient chaque année à Chicago et qui vient de se terminer. Quelles sont ces innovations? Sont-elles déjà disponibles? Quels cancers sont concernés? Guérira-t-on un jour tous les cancers? Et que pouvons-nous faire dans notre quotidien pour réduire le risque de survenue de cette maladie? Les réponses, c'est tout de suite avec Stephen Le Guill. Stephen Le Guill, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être là. Vous êtes professeur en hématologie, directeur de l'ensemble hospitalier de l'Institut Curie, premier centre français de lutte contre le cancer. Et avant de parler aujourd'hui et demain, on va faire un petit focus sur le passé quand même pour réaliser d'où on vient. Déjà, est-ce que les cancers ont toujours existé? C'est quoi la première preuve de cancer que l'on ait?
La première preuve de cancer que l'on ait diagnostiqué, c'est chez un hominidé. Il y a 1,6 million d'années. Et là, je suis chez les humains, on pourrait même trouver, on a trouvé des os de dinosaures qui avaient des lésions osseuses qui étaient des lésions cancéreuses. Donc,
ça a toujours existé.
À partir du moment où il y a eu du vivant, où les cellules ont interagi avec leur environnement, où elles se sont dupliquées, divisées, avec un ADN, avec un ARN, ben derrière, vous avez forcément un risque de dérapage et donc forcément des risques de cancer. Quand il y a du vivant, malheureusement, sous la forme que l'on connaît aujourd'hui.
Alors, bien sûr, les hommes vivent moins longtemps, donc il y en avait sûrement moins à l'époque.
Forcément.
Les premiers traitements dateraient de 2000 ans avant notre ère. Des anciens hindous essayèrent de détruire les cancers avec des cataplasmes de pâte contenant de l'arsenic. Résultat, ceux qui ne mouraient pas de leur maladie mouraient empoisonnés par l'arsenic. Mais c'était déjà une tentative. Dès le Moyen-Âge, l'idée, ça a été de retirer ces tumeurs pour obtenir une guérison. Mais on ne connaissait pas cette notion d'extension de la maladie et de métastase. Quand est-ce qu'on a compris que enlever la tumeur, ça n'allait pas suffire? Quand est-ce qu'on a commencé à parler de métastase, de mieux comprendre le cancer?
Alors, se dire que le cancer pouvait aller à d'autres endroits, bon, évidemment, pas forcément appeler ça un cancer. Même Hippocrate y avait un petit peu pensé, mais on était sur des théories médicales qui ont duré jusqu'au Moyen-Âge, qu'on appelait les humeurs. Donc, la dissémination de la maladie devait être liée à un déséquilibre des humeurs du patient. En fait, on lit le mot de métastase à une dissémination d'une cellule tumorale au début du 19e siècle par un médecin français, le docteur Récormier, qui est en tout cas, on lui attribue le fait d'avoir parlé de métastase, qui en grec, vous voyez, on revient à Hippocrate, veut dire dissémination, tout simplement.
Il y a eu donc la chirurgie, puis la radiothérapie, qui consiste à irradier la tumeur pour la détruire. Et c'est Marie Curie qui en est à l'origine. Marie Curie qui a créé en 1909 ce centre que vous dirigez aujourd'hui. Les premiers résultats de ces radiothérapies, c'était quoi?
Alors, d'abord, elle l'utilise pour faire de l'imagerie sur le front, hein, dans la guerre de 14-18. Ouais. Elle a une petite camionnette, et puis en regardant un peu où sont les fractures et les lésions. Donc, au début, ça part plutôt sur de l'imagerie. Et elle va travailler avec un pathologiste qui s'appelle Claudius Rigaud, qui lui est un médecin qui analyse les tissus. Et leur idée va être de faire peut-être que justement que ces rayons vont pouvoir traiter ces tumeurs que l'on observe sur les tissus. C'est comme ça naît l'histoire de l'Institut Curie, donc d'emblée vers une histoire de thérapeutique.
Ouais.
Et j'invite tous ceux qui sont intéressés comme moi, comme vous, j'imagine, oui, par l'histoire de la médecine et particulièrement sur la radiothérapie, d'aller faire un tour au musée Curie, qui est à l'angle de la rue d'Ulm et de la rue Marie Curie, qui est un musée gratuit, hein, donc voilà, qui fait partie de l'Institut Curie, où vous retrouverez toute cette histoire de la radiothérapie et d'irradiation, et vous verrez que le malade était peut-être irradié largement, mais le soignant ne devait pas non plus s'en sortir indemne.
C'est sûr. Il y a eu ensuite la chimiothérapie. Les premiers essais vraiment scientifiques, c'était quand?
Alors là, début du XXe siècle, Ehrlich, qui est un chimiste en fait, va être le premier à utiliser de la chimiothérapie. Alors, Par contre, ils ne l'utilisent pas dans le traitement du cancer. Hein. C'est pour traiter la syphilis. Mmh. Et à nouveau, vous voyez, il est encore lié avec nos collègues d'il y a 2000 ans, il va utiliser de l'arsenic.
Ah oui.
Mais c'est pour traiter de la syphilis. Pour traiter les cancers, c'est 1943, les essais avec des dérivés de l'hypérite, qui sont des gaz moutardes, en fait, comme on utilisait pendant la Première Guerre mondiale, où là, les premiers essais cliniques vont essayer, justement, de traiter des cancers, en l'occurrence des lymphomes, avec cette nouvelle approche chimique de synthèse.
Bon, évidemment, tous ces traitements se sont affinés, améliorés, mais ils avaient quand même pour but de supprimer les cellules cancéreuses, soit en les enlevant, soit en les brûlant, soit en les détruisant avec des médicaments. Et c'est là qu'intervient une révolution thérapeutique née, en fait, il y a une dizaine d'années, qui ne cesse de progresser. Ce qu'on a compris, c'est que c'est que le développement d'un cancer passait avant tout par la capacité des cellules tumorales à empêcher notre système de défense de s'attaquer à elles. D'où l'idée d'aller bloquer cette capacité. C'est la naissance de l'immunothérapie. Est-ce que c'est ça? Et en quoi ça consiste exactement?
On peut remonter un peu plus loin dans le temps. L'immunothérapie, donc cette compréhension que le système immunitaire a un rôle à jouer dans la lutte contre le cancer, mais aussi dans le fait que la cellule cancéreuse est plus développée, c'est années 70-80. Par contre, c'est plus une démarche de comprendre ce qui se passe. Les vrais progrès, si on veut mettre une date, c'est-à-dire le développement des anticorps monoclonaux, pour parler un peu médical, c'est le début, il y a presque 25 ans, on va faire simple, début des années 2000, où on va utiliser les anticorps qui vont se déposer sur les cellules cancéreuses et qui vont servir un peu de drapeau au système immunitaire. Cette cellule, elle a une anomalie avec son anticorps dessus,
il faut l'attaquer.
Et là, vous avez des cellules qu'on appelle des macrophages qui viennent goulotter ces cellules, c'est un anti-CD20 et c'est aussi une découverte française. On a droit aussi d'être content, ça a été publié par des équipes françaises dans le New England, le fameux journal. Dans les lymphomes et montrant, et on utilise toujours la supériorité de la chimio plus l'immunothérapie.
C'est en association.
Exactement. C'est le professeur Bertrand Coiffier qui avait fait cette démonstration.
Et je parlais effectivement de 2010, les essais importants, notamment par exemple dans les mélanomes ou certains cancers du poumon. Ça bouleversait le pronostic?
Oui, ces molécules principalement, et on en a parlé encore à l'ASCO, qui sont ce qu'on appelle les anti-PD-1, elles vont permettre de réactiver la capacité du système immunitaire à tuer des cellules tumorales. Parce que non seulement les cellules tumorales sont capables d'échapper, ne pas se faire reconnaître par le système immunitaire, mais elles sont capables aussi, quand elles sont reconnues, d'éteindre le système immunitaire. En fait, de lui renvoyer un signal feedback, ne me fait pas de mal.
Donc il faut le réveiller.
En fait, il faut bloquer. C'est comme si la cellule tumorale appuyait sur un interrupteur pour éteindre.
Il
faut bloquer l'interrupteur. Et c'est ce qu'on fait avec ce type de traitement qu'on appelle des anti-PD-1. Et donc, on laisse activer le système immunitaire.
Et c'est vrai que certains cancers, notamment de la peau, ces mélanomes métastasés qui avaient un pronostic épouvantable, tout d'un coup, des patients ont vu leur espérance de vie s'allonger de manière impressionnante.
Oui, tout à fait. Les mélanomes, cancer du poumon aussi, qui sont des cancers extrêmement agressifs, avec, dans certaines formes, ces développements de cette immunothérapie va considérablement prolonger la durée des réponses.
Donc ça, ce qui évolue, c'est c'était au départ pour des cancers qui étaient très évolués, avec des métastases. Effectivement, maintenant, on teste ça pour des cancers qui n'ont pas encore de métastases, c'est important. Donc plutôt, on adapte les doses, enfin, on travaille beaucoup dessus. Autre nouveauté, en fait, qui est une branche de l'immunothérapie, c'est la vaccination. On connaît bien la vaccination préventive, le tétanos, la polio, etc. Là, c'est une vaccination thérapeutique.
Vous avez tout à fait raison, la vaccination, ça rentre dans la grande famille de l'immunothérapie. Il y a plein d'axes différents dans l'immunothérapie. Donc, on connaît les vaccins préventifs, comme vous l'avez dit, mais là, ce sont des vaccins thérapeutiques. C'est-à-dire qu'on va souvent les utiliser après le traitement pour continuer à entretenir, à entraîner le système immunitaire. Et c'est le même principe que pour un vaccin d'un virus, c'est de présenter à notre système immunitaire une fraction de la cellule tumorale, une partie de sa carte d'identité,
pour qu'elle apprenne à reconnaître,
exactement.
Notre système immunitaire, c'est effectivement la cible des chercheurs, très clairement. Il y a une autre technique qui s'inspire de cette idée d'agir donc sur ce système pour réduire le cancer. Alors, c'est des cellules au nom compliqué, mais vous allez nous expliquer ça, je sais simplement. Ce sont les cartes T-cells. Voilà. C'est quoi ces cellules-là?
Les cartes T-cells, en effet. Alors là, on va encore une étape plus loin dans la manipulation du système immunitaire. Il s'agit de donner une compétence que n'a pas une cellule et de la transformer. Donc on va prendre des cellules d'un patient, en général ce sont des cellules du patient, autologue, il y a des recherches pour prendre d'autres cellules, qui fait partie de son système immunitaire, qui sont des lymphocytes. Et ces lymphocytes...
On lui prélève ces cellules.
On lui prélève les cellules du patient, et on va lui amener la compétence, à travers une transfection d'un gène, de reconnaître...
C'est-à-dire transfection d'un gène.
On va amener une section d'ADN dans la cellule de lymphocytaire qui va lui permettre de coder une protéine. En gros, on va lui apprendre à reconnaître quelque chose qu'elle ne sait pas faire naturellement.
D'accord.
Et donc, cette cellule, une fois qu'on l'a prélevée, comme une prise de sang, on fait cette transfection... un OGM, hein, si on veut aussi parler dans un langage plus connu. Et après, une fois qu'on l'a un peu expandu, on va la réinjecter au patient. Et avec sa nouvelle compétence, qui est évidemment de reconnaître une partie de la cellule tumorale, elle va devenir active, elle va s'amplifier.
Elle va l'apprendre à toutes les cellules
Alors non, elle ne va pas apprendre aux autres. Elle va grandir, elle va se multiplier dans le système immunitaire.
Et ça suffit.
Et ça suffit, dans plus de la moitié des cas, ça a été développé dans des tumeur, et c'est pas pour rien du système immunitaire, hein, parce que le système immunitaire lui-même peut développer un cancer. Donc, développé dans deux types de pathologies, qui sont les lymphomes et les leucémies aiguës. Le myélome, qui est une autre pathologie du sang. Et l'un des grands challenges actuellement, c'est de pouvoir voir si ce système CAR-T-cell peut être, de thérapie cellulaire, peut être utilisé dans des cancers solides. Et parce que c'est beaucoup dans
poumon,
les... Tout à fait.
Alors ça, c'est un peu les nouveaux traitements, nouvelles recherches, dont certaines sont déjà appliquées, bien sûr, comme l'immunothérapie. Mais il y a aussi, dans les nouveautés, le choix de la stratégie thérapeutique. Et ça, c'est très important. On découvre qu'on peut savoir si un traitement va être efficace sur un patient ou si le patient va résister à ce traitement. Ce qui est intéressant, c'est que si on le sait très tôt, ben on peut proposer autre chose et donc éviter à la fois une perte de chance et des effets secondaires inutiles. Ça a été très important au congrès justement de Chicago à l'ASCO.
Oui, tout à fait. Et ça a fait même l'objet d'une communication et une séance plénière par une étude qui a été initiée, imaginée à l'Institut Curie, portée par le professeur François-Clément Bidard. Et la présentation était la confirmation de cette stratégie que vous venez de décrire. Les cellules tumorales, elles ont la capacité de s'adapter. Ce qu'on appelle, en langage scientifique, la plasticité de la cellule.
Elles sont intelligentes, c'est ça le problème.
Alors, je ne leur donnerai pas de l'intelligence, je dirais,
elles sont malignes.
Elles sont malignes, voilà. Elles savent échapper.
C'est ça.
Et parmi leur système d'échappement, elles vont modifier leur ADN et acquérir une compétence de résistance. Mmh. Et sous la pression du traitement, on va voir émerger une sous-population de ces cellules tumorales, qui est en fait résistante au traitement qu'on donne. Et tout l'enjeu, vous venez de le dire, c'est de détecter cette variation le plus tôt possible, avant d'arriver vers des métastases.
C'est
exactement.
Ça.
Pour modifier ce traitement. Mm-hmm. Et l'étude dont vous parlez, dans le cancer du sein, a comparé deux populations de patients chez lesquelles on a pu détecter l'apparition très précoce de ces mutations. La moitié des patients n'ont changé pas le traitement et l'autre moitié ont changé le traitement. Et celles à qui on a changé le traitement sur la détection précoce de ce marqueur ont une durée de réponse beaucoup plus longue. C'est ce qu'on mesure en fait, c'est un petit fragment de la cellule tumorale, ce qu'on appelle de l'ADN tumoral, qui circule. Et ce prélèvement, c'est un prélèvement sanguin qu'on appelle prélèvement liquide, mais c'est un prélèvement sanguin.
Et là, on est dans la recherche ou on est déjà dans l'application ?
On est dans le translationnel, dans cette zone entre les deux. C'est-à-dire que ce que montre l'étude, c'est que c'est faisable.
D'accord.
Et la démonstration de la faisabilité dans un essai clinique et que ça a un impact, maintenant le challenge, ça va être de se dire cette technique, cette approche, est-ce que je peux la mettre en place tous les jours dans le traitement de tous les patients qui ont ça. Ce sont des défis organisationnels, technologiques, financiers aussi, mais c'est une preuve de concept. Et si ça marche dans le cancer du sein, pourquoi ça ne marcherait pas dans d'autres cancers ?
Encore dans le même ordre d'idée, on essaie de savoir si un patient a un risque de rechute élevé. On sait que attendre la rechute, c'est quand même laisser passer beaucoup de temps et puis la maladie évolue. On pourrait essayer d'anticiper là-dessus.
Oui, là, cette technique que je vous décris est une manière d'être très tôt. Mais si on détecte de l'ADN tumoral, c'est qu'il y a déjà de la cellule tumorale. Donc, si on veut empêcher une rechute, vous pouvez avoir des traitements dits d'entretien. Donc pendant plusieurs années, une fois tous les mois.
Des traitements très lourds ?
Non, en général, ce sont des traitements bien tolérés.
Parce que les gens, par exemple, la chimiothérapie, on leur dit on va faire un traitement d'entretien en chimiothérapie, c'est lourd souvent.
C'est lourd, exactement. Souvent, c'est une phase du traitement, mais avec une durée bien déterminée, 5, 6, 7, 6, ça va dépendre de quelle pathologie on parle. Et après, derrière, on passe sur ces phases d'entretien où l'immunothérapie est souvent très utilisée. Tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois, ça va dépendre des traitements. On va entretenir ce système immunitaire et donc éviter la rechute. Et il faut aussi combiner ces approches de surveillance. Je ne pense pas qu'il existe une manière de surveiller qui va... Voilà. Il faut de l'imagerie, L'ADN tumoral peut être une des techniques aussi. Et la caractérisation de la maladie au diagnostic permet aussi de classer des patients à haut risque de rechute versus des patients ou des patientes avec un risque de rechute faible et donc d'adapter cette surveillance.
Quand on vous entend parler, on comprend très bien que toutes ces nouveautés sont liées à une meilleure connaissance du mécanisme des cancers, mais aussi qu'on comprend à quel point chaque cancer est unique et à quel point il faut personnaliser chaque traitement. On en parle tout de suite.
France Culture, carnet de santé. Marina Carrère d'Encausse.
Première cause de mortalité dans notre pays, le cancer est l'objet d'immenses recherches qui aujourd'hui portent leurs fruits. On en parle avec le professeur Stephen Le Guill, directeur de l'ensemble hospitalier de l'Institut Curie, professeur en hématologie. Une émission préparée par Anne-Claire Bazin, réalisée par Thomas Jost, avec à la technique Mineta Diawara et à la vidéo Vincent René. Je le disais, avec toutes ces innovations, on ne traite plus un cancer, on traite le cancer d'un patient.
C'est tout à fait vrai, c'est surtout une tendance de plus en plus forte à mieux connaître la maladie, ce qui est un élément essentiel pour améliorer les traitements. C'est sur ce raisonnement qui est bâti, toute la philosophie de l'Institut Curie, qui est à la fois un centre de recherche fondamental, un champ translationnel et un centre de traitement. C'est vraiment essentiel, parce que sinon on peut attendre des résultats par hasard. La pénicilline a été découverte par hasard, il a fallu à l'être humain, on va dire, 2000 ans pour la trouver. On peut espérer se faire plus rapidement. Donc il faut comprendre ce que l'on cherche. Et en cherchant et en analysant de plus en plus ces cellules tumorales, on comprend, comme vous le dites, qu'il y a, on pouvait s'en douter, mais il y a des différences d'un individu à l'autre. Et même à l'intérieur d'une tumeur chez un individu, c'est une population de cellules très hétérogène. Et c'est sans doute ça une des nouveautés les plus marquantes dans ces dernières années, dans les avancées dans la recherche. C'est qu'on a souvent dit les cellules tumorales, en fait, elles sont ce qu'on dit en médecine quand on est dans les amphithéâtres, c'est les cellules monoclonales. Ce qui veut dire, en gros, elles se ressemblent toutes. Mm-hmm. C'est la même tête, vous prenez une carte d'identité, elles se ressemblent toutes, elles sont toutes pareilles, voilà. Et en fait, non. Il y a des différences qui peuvent parfois pas être visibles au diagnostic, mais ces différences, elles sont essentielles parce qu'au fur et à mesure du traitement, on va voir changer cette cellule tumorale, émerger des populations, voire apparaître des populations qu'on ne mesurait pas au début. Donc, différence d'un individu à l'autre, alors que le cancer peut être le même, mais aussi hétérogénéité au sein des cellules tumorales elles-mêmes.
Est-ce que toutes ces nouveautés vont permettre, bien sûr, d'améliorer le pronostic et l'espérance de vie des patients, mais aussi améliorer leur mieux-être, c'est-à-dire effectivement éviter des traitements, une chirurgie, une chimiothérapie qui finalement ne sont pas nécessaires ou qui ne seraient pas efficaces? C'est aussi le but?
De toutes les manières, un traitement qui serait super efficace, mais que les patients peuvent pas recevoir parce qu'ils supportent pas, par définition, c'est plus un traitement. Il faut donc pouvoir utiliser des traitements qui sont adaptés au patient, à ce qu'il peut supporter. Et un homme de 40 ans ne supportera pas la même chose qu'un homme de 80 ou une femme de 40 ans et une jeune femme de 18 ans. Donc il y a naturellement une adaptation. Et en effet, il faut pouvoir apporter des soins de support. En même temps, ça fait partie...
Les soins de support, c'est tout ce qui accompagne
ce traitement
directement contre le cancer.
Exactement, ça va comprendre des traitements pour éviter les nausées et les vomissements, ça va être des traitements pour éviter que les globules blancs descendent trop bas, mais ça va être aussi une psychologue, ça va être aussi une prise en charge globale et holistique. Et dans les centres de lutte contre le cancer, ce que promeut UniCancer, qui regroupe l'ensemble des centres de lutte contre le cancer, comme à l'Institut Curie, ben c'est l'accompagnement global du patient. Parce qu'un bon traitement qu'on n'arrive pas à prendre, par définition, ce n'est plus un bon traitement. Et les patients ont besoin de cette aide qui est parfois aussi sociale. Hein. C'est une rupture, un cancer, c'est difficile à vivre. Donc, pour pouvoir avoir des meilleurs résultats, il faut aussi accompagner de ce point de vue-là.
Vous parlez de ces centres anti-cancer, mais ce qu'il faut aussi, dans notre pays, ces avancées sont extraordinaires, mais il faut qu'elles bénéficient à tous les patients. On sait qu'elles sont chères, on sait qu'il n'y a pas des centres de référence partout, il y a une inégalité d'accès à ces centres. C'est quand même un enjeu, ça aussi.
C'est un enjeu majeur, et qui retrace aussi et qui est une autre manière de voir les inégalités sur notre territoire. L'accès aux soins, c'est une inégalité, comme l'accès aux services publics, comme l'accès à une boulangerie. Et voilà, je décline un peu en dehors du champ de la santé, mais on va retrouver cette même disparité. Quand vous avez un centre de lutte contre le cancer à côté de chez vous, si je prends l'exemple évidemment que je connais le mieux, celui de Curie, au centre de Paris à Saint-Cloud ou à Orsay, c'est plus simple. Mais c'est aussi notre responsabilité de santé. C'est pour ça que moi j'ai des médecins qui vont à Saint-Denis dans le 93 pour aller voir une autre population que celle que nous pouvons voir au centre de Paris. On a des médecins qui vont travailler sur d'autres zones géographiques, sur d'autres zones de Paris. Et je pense que ça, c'est aussi une des responsabilités des centres comme les nôtres, d'aller aussi à des endroits où on n'a pas un centre Curie, mais pas tout seul. quand je prends en Saint-Denis, on travaille avec le centre hospitalier de Saint-Denis, avec les gens qui sont sur le terrain tous les jours et qui connaissent. Et on dit, nous, bah, on peut vous aider dans le cancer du sein, dans le cancer gynécologique, et on peut amener une expertise qui vient de chez nous. Et ça, ça marche très très bien.
Vous dites même qu'il faut développer des centres virtuels pour que chacun ait accès aux meilleurs spécialistes.
Je pense que l'une des... Il n'y aura jamais, on peut rêver, hein, mais il n'y aura jamais un centre de lutte contre le cancer ou un CHU dans chaque département ou chaque ville de plus de 20 000 habitants. C'est une réalité. Donc comment on fait pour avoir un avis? Comment on fait pour partager l'analyse? Et vous n'avez pas besoin toujours de vous déplacer. Il y a des moyens maintenant, les moyens de numérique, l'intelligence artificielle, les réseaux qui existent déjà doivent permettre aux patients et à leur thérapeute de proximité de pouvoir avoir ce lien. C'est facile à dire, après il faut le mettre dans le concret, parce que les médecins dans les centres de lutte, les spécialistes, ils ne sont pas forcément non plus très nombreux, ils ont déjà un agenda qui est bien occupé. Donc derrière, il y a une politique de formation, il y a une politique de déploiement régional, et la situation ne va pas être le même sur le territoire, si vous êtes dans le nord de la France ou si vous êtes dans la région PACA, ce n'est pas les mêmes populations, ce n'est pas les mêmes gens, ce n'est pas les mêmes problématiques. Donc tout ça nécessite que les professionnels aussi se connaissent et connaissent le milieu. Donc les outils doivent aider, mais les outils ne feront pas tout. Il faudra des humains, des médecins, des infirmières pour faire le job.
Alors, on parle d'outils, parlons donc de l'intelligence artificielle, de plus en plus présente dans le monde. Quelle place elle a joué dans la prise en charge des patients atteints de cancer?
Alors, à beaucoup de niveaux. Si on commence par la prise en charge de tous les jours, c'est comment multiplier la capacité d'analyse que nous avons. Analyse d'imagerie, analyse de tissu.
Dans le cancer du sein, par exemple, ça
dans le cancer du sein, tous les prélèvements que nous faisons sont numérisés. Que ce soit cancer du sein ou autre, ils sont numérisés. Mm-hmm. Et sur ces numérisations, c'est-à-dire sur des images, on va pouvoir avoir une intelligence artificielle qui vous dit, ben là, à tel endroit, il peut avoir ci ou ça. Le dernier mot sera toujours médical.
Bien sûr.
Ça, c'est essentiel de le dire. Donc ça, déjà, ça nous fait gagner du temps. Ça nous fait analyser plus de paramètres que pourrait le faire un être humain à l'œil. Vous mettez ça aussi en radio. Vous pouvez après avoir une analyse plus globale. Je vais mettre toute la biologie, toute l'imagerie, toute la pathologie, tous les comptes rendus médicaux. Je vais pouvoir les analyser collectivement. Je vais vous donner un exemple aussi sur la formation. Si un médecin veut être à jour aujourd'hui en se disant « Allez, je vais lire toutes les revues scientifiques parce que je vais être le meilleur médecin et je vais être sérieux. Voilà. » Il faut qu'il lise tous les jours 5000 articles.
C'est-à-dire qu'il n'aura pas le temps de voir ses patients.
Non, il lira. Et même les 5000 articles, si vous voulez, mon avis, il n'arrivera pas à les lire. Donc au final, on a besoin aussi pour l'aide à la formation des professionnels de santé et surtout des professionnels de santé de demain. Et l'intelligence artificielle, elle va vous aider à synthétiser ces 5000 articles que vous auriez dû lire ou pas lire, parce qu'il y en a peut-être 4999 qui n'ont strictement aucun intérêt, mais ça, vous le saurez qu'à la fin. Donc, elle est là aussi, l'intelligence artificielle. Et dans la recherche, ben, c'est pareil, analyser plus de paramètres, avoir une puissance de calcul beaucoup plus forte, c'est le booster de ce 21e siècle pour avancer.
Vous pensez qu'un jour, on saura guérir tous les cancers?
Oui. Je pense que tous les jours, un jour, on saura guérir tous les cancers. Et je pense que ce moment arrivera au 21e siècle.
En attendant, on peut agir. Et ça, c'est important, parce qu'on sait que les pronostics dépendent du stade où le cancer est diagnostiqué, sauf exception, à plus un cancer est retrouvé tôt, plus le risque d'extension est faible et meilleur est le pronostic. Et c'est là que le dépistage intervient, mammographie, frottis pour les femmes, hémocultes, coloscopie pour les hommes et pour les femmes. Il y a des dépistages organisés en France, ça veut dire qu'ils sont pris en charge par la Sécurité sociale. Est-ce qu'ils sont bien suivis? Est-ce qu'on détecte bien le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein, le cancer du côlon?
Pas assez. Et on le sait tous qu'en France, on n'est pas les plus bons élèves sur tout ce qui est le dépistage précoce. C'est un enjeu de politique publique, c'est un enjeu sociétal, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit plus dur que les autres.
On incite, hein, on reçoit les courriers à tel et tel âge, on est sollicité pour le faire.
Oui, on est sollicité pour le faire, mais en même temps, on n'est pas entraîné, on n'est pas préparé à le faire. Et je pense que dans une histoire de vie, quand on est tout petit, quand on va à l'école, quand on est adolescent, ben, il faut accompagner par de l'enseignement, à l'école, dans les associations, sur le fait qu'à telle étape de vie, souviens-toi, quand tu auras 50 ans, alors quand on vous dit à 16 ans qu'on vous aurait 50 ans, on a tous eu 16 ans, très honnêtement, c'est pas sûr. Le sujet qui vous passionne. Par contre, vous faire une prévention sur le tabagisme et les effets du tabagisme. À 16 ans, ça a du sens. Quand vous commencez à en avoir 40, 45, vous parlez de l'hémocule quand vous aurez 50, ça a du sens. Et tout ça, ça ne se fait pas ça va pas se faire au coup par coup et parce qu'on a rencontré les bonnes personnes.
Bien sûr.
Et ça doit rentrer dans notre vision culturelle.
Je parlais de ces dépistages organisés. Il y a un autre dépistage qui est important, qui n'est pas organisé, donc pas pris en charge. C'est celui du cancer de la peau, le plus grave, hein, qui est le mélanome. Je voudrais juste qu'on écoute Céline qui témoigne sur France Inter dans le téléphone sonne. Écoutez-la.
J'ai été soignée il y a 11 ans de ça maintenant, d'un mélanome qui a été détecté alors que j'étais à mon 4e mois de grossesse. Et en fait, j'ai un médecin traitant qui m'avait toujours dit, écoutez, vous avez la peau claire, vous avez une peau à risque, je vous conseille de vous faire suivre régulièrement chaque année. Et donc j'ai suivi son conseil et effectivement, mon oncologue m'a dit qu'il m'avait très certainement sauvé la vie, évité de graves soucis. Parce qu'un mélanome pendant une grossesse, ça peut être très compliqué.
Ça, c'est un dépistage donc qui n'est pas organisé, mais il faut effectivement voir régulièrement son médecin pour faire ensuite des dépistages selon les risques que l'on a ou les facteurs de risque auxquels on est exposé.
Oui, tout à fait. Et puis là, il y a aussi évidemment des sensibilités personnelles. Si on parle du cancer du mélanome, le pays où il y a le plus de cancer du mélanome, c'est l'Australie. Du fait tout simplement de l'immigration des populations européennes, notamment du nord de l'Europe, sous un climat qui n'est pas le leur. Donc vous avez forcément plus de risques. Donc eux, ils ont une vraie culture du dépistage. À nous aussi de travailler sur ces aspects-là. On parlait tout à l'heure de l'intelligence artificielle. Est-ce que là aussi, on ne peut pas développer des outils? Et ces outils sont évidemment en cours de développement, qui permettent de faire sur l'analyse d'une lésion cutanée, d'évaluer le risque et de dire, bah là, il faut que vous alliez voir un spécialiste, ou là, non, il n'y a pas besoin. En tout cas, c'est une première manière de dépister à l'échelle des populations.
Vous parliez effectivement du tabac tout à l'heure. On sait que ces dépistages sont essentiels, mais bien vivre aussi. On le disait, 40% des cancers sont liés à nos habitudes de vie. Okay. Consommation de tabac, d'alcool, sédentarité, mauvaise alimentation, exposition au soleil sans protection. On peut agir en évitant tous ces facteurs de risque. On peut se protéger soi-même.
Tout à fait, 40% des cancers sont évitables. Ça veut dire que 60% à l'heure actuelle ne le sont pas.
40%, mais c'est déjà énorme.
Mais 40%, c'est énorme. Et en effet, sur des habitudes de vie, le tabac en est pour moi l'exemple le plus typique. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui fume qui ne soit pas informée que le tabac entraîne des cancers du poumon. Enfin, là, il faut vraiment vivre dans une bulle,
grotte.
dans une grotte, quoi. Et du coup, on ne peut pas se fournir en tabac. Mais en pratique, ça n'empêche pas de fumer. Quel est un des cancers qui augmente le plus en France? Le cancer du poumon chez la femme.
Pourquoi? Parce qu'elle s'est mise à fumer.
Parce que la femme s'est mise à fumer. Et on le sait. Et souvent un discours est de dire, oui, mais bon, je sais, j'assumerai. Moi, je peux vous assurer qu'on n'assume rien du tout.
Le jour où ça arrive, on n'assume plus.
On n'assume plus rien du tout. Et ce n'est pas non plus un cancer très sympathique à avoir, si tant est qu'il y ait un cancer sympathique. Voilà. Je rajouterais, mais ça, c'est un autre aspect. Je suis très motivé. Les gens qui travaillent à l'Institut Curie, qui me croisent, savent que je fais la chasse au tabac, que ça pue aussi. Excusez-moi l'expression, c'est que ça pue pour le voisin. Voilà.
Autre cause directe de cancer, là aussi, donc évitable, ce sont des virus. C'est le cas du cancer du foie qui est lié à l'hépatite B, au cancer du col de l'utérus, de l'anus, de la gorge qui sont liés au papillomavirus. Et c'est vrai pour les deux sexes. Là aussi, on a des vaccins contre l'hépatite B, contre le papillomavirus, vaccins obligatoires ou recommandés. On en est où, là aussi, en France? On est là aussi mauvais élève?
Alors, on progresse, parce qu'il y a eu une grande campagne, notamment pour cibler les plus jeunes, parce que c'est là où il faut en effet vacciner. Et puis, je rajouterais pour les garçons le cancer de la verge, avec le papillomavirus aussi, qui là n'est pas non plus un cancer très sympathique. Je pense qu'il y a pour le papillomavirus, il y a une prise de conscience. Maintenant, on est dans un moment où tout ce qui s'appelle le vaccin entraîne beaucoup de craintes. On voit même qu'aux États-Unis...
La crise du Covid n'a pas arrangé les choses.
La crise du Covid n'a pas arrangé les choses. La perte de confiance parfois aussi dans des évidences. Les comportements même de ministres de la Santé américains montrent que ça peut aller très
bien
loin.
Sûr.
Mais je pense que ça progresse. Mais on voit là aussi qu'il y a une différence de taux de vaccination selon les milieux sociaux. C'est pas qu'une question je fais ou je fais pas. On est plus vacciné au centre de Paris qu'on va être dans
c'est
certaines
ça.
Banlieues.
Encore une inégalité.
Tout à fait. C'est un autre marqueur d'inégalité sociale.
Lequel est effectivement important de travailler. Et puis, il y a également des facteurs environnementaux comme l'exposition à l'amiante, au radon, aux pesticides, à la pollution, aux solvants. Et là, c'est évidemment aux autorités de nous protéger. En tout cas, on rappelle qu'en suivant tous ces conseils, on pourrait éviter 40% des cancers. Ça vaut la peine et que la recherche est extraordinaire. Merci infiniment d'être venu nous voir.
Avec plaisir, merci à vous. We'll be right back.
Culture.
France Culture propose une nouvelle collection de podcasts, Les Aventuriers de l'archéologie. Des découvertes racontées sous forme d'enquêtes par les archéologues qui les ont faites. Un paléopolar.
La première découverte de restes humains vraiment significatifs, elle a lieu en 2007.
Les Aventuriers de l'archéologie, l'énigme d'Hilroud, un si vieux sapiens, par Jean-Jacques Hublin, réalisation Assia Weber, une nouvelle collection de 4 épisodes à découvrir sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Les éditions Radio France présentent
5e République, anatomie d'un régime en crise.
Un livre de Thomas Negaroff et Anne-Charlène Bézina.
Comment notre constitution a-t-elle évolué jusqu'à aujourd'hui? Peut-elle survivre à la crise politique actuelle? S'agit-il d'une impasse politique ou structurelle? En 45 questions, nous décryptons son histoire et son fonctionnement pour mieux comprendre.
5e République, anatomie d'un régime en crise, de Thomas Negaroff et Anne-Charlène Bézina. Un livre France Inter, clair et accessible, enrichi d'infographies et de documents complémentaires.
Il est 12h30, vous écoutez France Culture, tout de suite, le journal de la rédaction.
Bonjour à tous. Iran-Israël, les suites de l'escalade. Deuxième jour de guerre ouverte après l'attaque aérienne massive d'Israël cette nuit contre Téhéran, baptisé Rising Lion. Les deux pays poursuivent ce matin cette escalade militaire qui fait craindre un conflit dans la région. On y revient en longueur avec Clément Terme, historien spécialiste de l'Iran, chargé d'enseignement à l'université Paul Valéry de Montpellier. Donald Trump voit les choses en grand pour le jour d'anniversaire de la création de l'armée américaine et pour son propre anniversaire, il s'offre un défilé militaire. Et puis c'est la journée mondiale du donneur de sang, les stocks sont bas. Comment inciter à donner plus? Plusieurs solutions sont proposées, notamment au sein des entreprises. Téhéran brûlera si l'Iran poursuit ses tirs de missiles sur Israël. Avertissement du ministre de la Défense israélienne ce matin, 48 heures après le déclenchement de l'opération Rising Lion par l'État hébreu contre le régime des Mollahs pour l'empêcher de développer l'arme atomique. L'armée israélienne dit avoir tué 9 scientifiques du nucléaire. L'escalade se poursuit donc. Thibault Lefebvre, correspondant à Tel Aviv pour France Culture. Bonjour.
Bonjour.
Thibault, on apprend dans la matinée qu'Israël a déclaré que la guerre contre l'Iran est désormais sa priorité devant Gaza.
Oui, et c'était clairement l'inquiétude des familles des 53 derniers otages à Gaza, que la libération de leurs proches ne soit plus justement la priorité de leur gouvernement. Eh bien c'est le cas aujourd'hui avec donc cette annonce de l'armée israélienne qui désigne l'Iran comme le fond prioritaire et considère désormais Gaza comme une guerre secondaire. Et c'est un véritable tournant ici dans le débat public, mais aussi et surtout dans la mobilisation générale. Des dizaines de milliers de réservistes ont été appelés pour renforcer l'armée de l'air, le renseignement et quadriller le territoire. Leur présence permet de libérer des soldats pour protéger les frontières et notamment au nord où Israël semble craindre de nouvelles frappes en provenance du Liban et de Syrie. Des drones d'attaque ont été envoyés ce matin sur la Galilée au nord donc. Ils ont été interceptés, rien de comparable évidemment avec les vagues de missiles balistiques partis d'Iran hier soir. Des immeubles ont été éventrés, 3 civils sont morts, il y a des dizaines de blessés. Et ce matin, vous l'avez dit, l'État hébreu hausse encore le ton par la voix de son ministre de la Défense Israël Katz. L'avertissement est limpide. Si Khamenei, le guide suprême iranien, continue de tirer des missiles sur les civils israéliens, dit-il, eh bien Téhéran brûlera.
Merci Thibault Lefebvre, correspondant à Tel Aviv pour France Culture. Le porte-parole de l'aéroport international Ben Gourion annonce par ailleurs ce matin sa fermeture jusqu'à nouvel ordre. Des mesures de vigilance aussi en France. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau ordonne au préfet de porter une attention particulière à la sécurité des lieux de culte, mais aussi des établissements scolaires. En Iran, le bilan de l'attaque s'élève à près de 80 morts, dont plusieurs responsables militaires de haut rang. Téhéran qui, de son côté, a tiré de nouvelles salves de missiles contre Israël et qui promet des ripostes encore plus dures, Siavosh Gazi.
Toute la nuit, jusqu'à 4 heures du matin, il y a eu des attaques dans Téhéran et dans la région de Téhéran contre notamment des bases militaires tout autour de la capitale iranienne, mais aussi l'aéroport de Mehrabad dans le sud de la capitale. Un incendie très important s'est déclaré donc vers 3h30, 4h du matin dans cet aéroport, dans la partie militaire apparemment qui a été visée de l'aéroport Mehrabad de Téhéran. Il y a eu aussi des attaques dans la ville de Karaj, qui est située à 50 km à l'ouest d'Iran. L'Iran a répondu par une vaste opération en lançant des centaines de missiles contre différentes cibles en Israël toute la nuit. Et aussi ce matin, l'armée iranienne a lancé des drones contre des cibles et des sites dans le nord de l'État hébreu. Le porte-parole de l'état-major des forces armées iraniennes a affirmé que c'était une partie des opérations décidées par l'Iran et que les opérations allaient se poursuivre et se durcir jusqu'à faire regretter, je le cite, le régime sioniste. Enfin, les autorités ont annoncé que 8 drones ou objets volants israéliens ont été abattus au-dessus de Téhéran ou à la frontière avec l'Irak, des drones d'espionnage donc qui survolaient la région.
Yavosh Ghazi, cette escalade, on y revient avec vous, Clément Terme, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste de l'Iran, chargé d'enseignement à l'université Paul Valéry de Montpellier. On en parle depuis le début de ce journal. L'Iran est affaibli, son état-major décimé. Parmi les victimes des frappes d'Israël, on retrouve notamment plusieurs hauts dignitaires de l'armée, des physiciens nucléaires. Est-ce que l'Iran a encore une vraie capacité de riposte, Clément Terme ?
Alors oui, l'idée d'Israël était effectivement d'affaiblir la capacité, notamment en termes de missiles balistiques, qui était la principale force militaire de l'Iran depuis les années 80. Donc un investissement financier considérable et en termes de ressources humaines également, et de sites, de nombre de sites disséminés sur tout le territoire. C'est pourquoi même après les premières frappes, la République islamique d'Iran a été en capacité de tirer des missiles, même si tous les commandants de la force aérospatiale ou la plupart en tout cas, avaient été éliminés. Donc cet affaiblissement quand même va avoir lieu parce que la République islamique va devoir utiliser ses stocks en raison de la distance géographique de plus de 2000 km. Et le désavantage qu'a la République islamique par rapport à Israël, c'est le fait qu'Israël a infiltré l'appareil de sécurité iranien et le système politique iranien. Donc on voit peut-être se dessiner, c'est le pari à mon avis israélien, le pari de l'épuisement de la République islamique et de ses capacités, ses réserves en missiles finalement.
Oui, rappelons que c'est au centre du pays qu'Israël a frappé sa cible la plus significative, le complexe nucléaire de Natanz. C'est un coup dur, on peut le dire, pour les ambitions militaires de Téhéran.
Alors oui, il faut distinguer le programme balistique, même s'il peut y avoir des liens, et le programme nucléaire qui officiellement était civil. Mais Israël a décidé, du fait de l'affaiblissement de l'axe de la résistance depuis le 7 octobre, donc le réseau de partenaires non étatiques de l'Iran au Moyen-Orient, de s'en prendre finalement à la principale capacité de dissuasion iranienne, qui est cette force aérospatiale qui contrôle le lancement des missiles, le lancement des drones également. Et donc ça a été ça les cibles principales qui ont été désignées par Israël lors de cette campagne. Et en réponse, la République islamique a mis en œuvre ce qu'ils ont appelé l'opération Promesse Véridique numéro 3, après la première qui était en avril l'année dernière et la deuxième qui était en octobre, mais cette fois en utilisant pleinement les capacités du pays. Il ne s'agit plus d'un signalement stratégique, mais la République islamique se considère aujourd'hui en guerre.
En guerre, voilà, on est dans une autre dimension, véritablement, vous le disiez. Il y a 2000 kilomètres entre les deux pays. C'est une opération qui ouvre une nouvelle ère dans la région, clairement.
Oui, parce que c'est un risque pour l'ensemble de la région, notamment si la réponse militaire iranienne ne se limite pas au territoire israélien et cible, ce qui est peut-être le cas au cours des prochains jours, on ne le sait pas encore. En tout cas, il y a une guerre psychologique là-dessus, une guerre de l'information, les bases militaires américaines, puisque la République islamique menace également les pays alliés militairement avec Israël. Et donc, on est quand même dans une dynamique d'escalade pour l'instant. Et ce sera très difficile d'enclencher une désescalade puisque l'attaque israélienne a eu lieu avant une réunion qui était prévue ce dimanche à Muscat entre les négociateurs iraniens et américains.
Et l'Iran qui est fragilisé en interne ?
Oui, tout à fait, parce qu'il faudra prendre la mesure de l'infiltration iranienne. On a vu qu'il y avait une base de drones qui a servi sur le territoire iranien contrôlé par Israël. Donc il s'agit d'une opération conjointe des services de renseignement israéliens et des forces armées israéliennes. Donc il faudra voir si cette infiltration est étendue et comment l'appareil de sécurité iranien et le système politique iranien va arriver dans un contexte de crise, de choc militaire externe à se réinventer peut-être parce qu'il y a aussi une contestation populaire très forte à l'intérieur du pays Et donc là aussi, il y a un pari israélien d'un effondrement et d'un changement de régime en Iran.
Ce qu'il faut s'attendre voilà, pour les prochains jours, pour peut-être les prochaines semaines, hein, c'est toujours cette escalade militaire hein, qui va continuer, hein, vous le confirmez, on ne peut pas s'attendre à autre chose qu'à ça.
Non, tout est possible, ça dépendra aussi de la réponse iranienne. Si la réponse iranienne se limite au territoire israélien et ne vise pas les bases militaires américaines, cela pourra éviter la contagion régionale. Mais dans l'hypothèse où la République islamique élargirait ses cibles en réponse, par exemple, à des frappes israéliennes sur ses infrastructures énergétiques, là, véritablement, on sera rentré dans une dynamique d'escalade.
Merci beaucoup, Clément Terme, d'avoir été avec nous, chargé d'enseignement à l'Université Paul-Valéry de Montpellier. Il en rêve depuis qu'il a assisté au 14 juillet sur les Champs-Élysées en 2017. Donald Trump aura son défilé militaire aujourd'hui à Washington. Alors, nous ne sommes pas le 4 juillet, jour de l'indépendance des États-Unis, mais le 14 juin, jour d'anniversaire de la création de l'armée américaine et du président lui-même. Pour certains Américains, Donald Trump s'offre tout simplement un défilé pour ses 79 ans. C'est ce que pense en tout cas ce couple qui habite en Pennsylvanie et que vous avez rencontré, Sébastien Paour.
Un blindé de la Première Guerre mondiale, des jeeps du débarquement, plus de 50 hélicoptères et des chars Abrams d'aujourd'hui, Jerian Burke ne voit là que l'ego démesuré du président républicain.
On n'a jamais eu un défilé comme ça. C'est pour l'anniversaire de cet homme qui est un peu narcissiste.
Jerian rappelle qu'il n'y a pas eu de défilé quand l'armée a fêté ses 200 ans en 1975 et qu'il n'y en a pas non plus le 4 juillet, jour de l'indépendance. Trump a clairement choisi la date de son anniversaire pour son mari Michael Klein, qui était sergent au Vietnam quand il avait 22 ans. L'actuel président Trump a dit un jour que les anciens combattants étaient des imbéciles et des perdants.
All veterans are suckers and losers.
Beaucoup de mes oncles ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient en France, ils sont rentrés chez eux et ils nous ont laissé le pays où on vit depuis. Et maintenant, ce président tente de bouleverser le monde. Il n'est pas le commandant en chef. C'est une honte. Le dernier défilé militaire à Washington remonte à 91, après la première guerre du Golfe. Celui d'aujourd'hui pourrait coûter 45 millions de dollars.
Sur place, 7000 soldats, des dizaines de chars de véhicules de combat. Le président prononcera aussi un discours. Il y aura un feu d'artifice devant la Maison Blanche. L'accident du Boeing 787 d'Air India, il y a trois jours dans le nord-est de l'Inde, a fait au moins 279 morts. Nouveau bilan publié ce matin. Ce qui en fait la catastrophe aérienne la plus meurtrière au monde depuis 2014. La situation n'est pas vraiment confortable. Les mots, l'alerte ce matin du président de l'établissement français du sang, cette journée mondiale du donneur de sang, pas assez de réserves, moins de 84 000 poches de globules rouges en réserve, alors qu'il faut atteindre 110 000 poches d'ici au 14 juillet, pas assez de dons non plus. Alors pour assurer une mobilisation régulière des donneurs, des solutions sont proposées, comme cette proposition de loi transpartisane votée en première lecture à l'Assemblée nationale en début de mois. Elle vise à favoriser le don de sang en entreprise, Jeanne Stémard.
Entre la vie professionnelle, familiale et personnelle, difficile de trouver un créneau pour donner son sang, son plasma ou ses plaquettes. Avec cette proposition de loi, plus d'excuses, à part pour raison médicale ou peur bleue des aiguilles. Les salariés pourront faire un don sur leur temps de travail. Mais attention, Pierre Cordier, député Les Républicains des Ardennes, auteur du texte de loi, le précise. Il n'est pas question de s'y rendre à l'improviste.
Il faudra prévenir trois jours avant. L'autorisation d'absence sera délivrée par écrit par l'employeur. Il y aura une preuve sur place que le salarié et bien aller donner son sang. Cette preuve sera donnée à l'employeur et bien entendu l'heure ou l'heure 30 d'absence sera rémunérée par l'employeur.
Le nombre d'absences sera limité à 8 par an et l'employeur reste libre de refuser si l'absence du salarié compromet l'organisation de l'entreprise. Pour Pierre Cordier, chaque don est un acte de solidarité.
Tout le monde peut avoir besoin de sang, de plaquettes ou de plasma aujourd'hui dans le cadre d'un problème médical, d'une opération, d'un accouchement.
Chaque jour, le FS a besoin de 10 000 poches de sang et chaque année, faute de dons suffisants, la France importe 65% du plasma des États-Unis. Pour l'établissement français du sang, cette proposition de loi permettrait de changer la donne. Frédéric Pacou, son président.
Ça va compléter ce que nous faisons déjà en termes de partenariat avec les entreprises, puisqu'on a déjà 10% de nos collectes mobiles, c'est-à-dire 3 000 collectes par an sur 30 000 qui se réalisent dans les entreprises.
La proposition de loi doit encore être examinée au Sénat. Pierre Cordier, l'auteur du texte, espère la voir effectivement effectifs d'ici la fin de l'année.
L'année dernière, plus d'1 500 000 personnes ont donné leur sang en France, selon l'EFS, un chiffre en baisse par rapport à 2023. Les dégâts des orages qui se sont abattus sur une grande partie de la France. Un homme de 68 ans est mort dans la soirée hier dans les Yvelines, victime de la chute d'un arbre frappé par la foule. À Paris, une femme est grièvement blessée. Pour ce qui est des dégâts matériels, 17 000 foyers restent sans courant dans le Périgord. Olivier Faure, officiellement réélu premier secrétaire du PS avec 51,15% des voix au deuxième jour du congrès du parti à Nancy. Sa victoire face à son concurrent Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de Rouen, avait été actée à l'issue du vote des militants le 5 juin dernier. Mais les résultats dévoilés à ce moment-là n'intéressaient pas le vote de certains territoires ultramarins comme la Guadeloupe ou encore la Martinique. Et puis c'est le dernier jour de VivaTech aujourd'hui, salon international de la technologie au parc des expositions à Paris. 14 000 startups y exposent leurs dernières innovations, parmi elles BodyO, une sorte de robot américain qui pourrait aider par exemple dans les déserts médicaux. La météo avec de nouveau ces risques d'orage. Selon le dernier bulletin de Météo France, 11 départements du centre puis 4 départements de l'est passeront en vigilance orange à partir de cet après-midi pour risque d'orage. Côté température, le mercure va grimper en moyenne entre 30 et 35 degrés avec même 36 à 38 degrés sur l'intérieur du Var et de la Corse. Midi 45.
Vous êtes bien sur France Culture.
Une heure de radio sur la musique et en musique, c'est la série musicale.
Zoé Svez.
On se retrouve donc chaque samedi pour une émission toujours libre de tous les genres, de tous les récits, de tous les portraits, des grandes voix aux genres inconnus, des métiers cachés aux albums cultes, un récit toujours subjectif et non exhaustif avec un maître mot, le plaisir.
La série musicale, chaque samedi à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Comment capter le chaos du monde sans jamais cesser d'en chercher la beauté? Pour sa dernière exposition avant fermeture, le Centre Pompidou donne carte blanche à Wolfgang Tillmans. L'artiste et photographe allemand investit et transforme l'ancienne bibliothèque publique d'information pour une exposition qui explore plus de 35 ans de pratiques artistiques. Wolfgang Tillmans, rien ne nous y préparait, tout nous y préparait. Du 13 juin au 22 septembre 2025, au Centre Pompidou à Paris. Un partenariat France Culture.
Midi 46 sur France Culture, tout de suite Sens Politique avec Astrid de Villene.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sens Politique, l'émission qui prend le temps de connaître une invitée pour décrypter avec elle son parcours, son engagement et sa personnalité au rythme de l'actualité. Notre invitée est une libérale, diplômée d'un BTS et d'une école de commerce, début de carrière dans l'immobilier, chef d'entreprise. Génération Chirac, puis Sarkozy, elle prend sa carte à l'UMP en 2002, à 27 ans. Représentante de la société civile avant l'heure, elle manque de peu la mairie du Mans en 2014. Depuis, ascension fulgurante jusqu'à la présidence de région, un poste qui ne lui était pas promis. Elle n'est pas bavarde sur les plateaux, mais dans son conseil régional, elle coupe à la tronçonneuse. Surnommée la ravière Mireille de l'Ouest ou la Thatcher des Pays de la Loire, elle nous dira si elle assume ses coupes budgétaires dans sa région et pourquoi elle y voit des caricatures. Ses phrases fétiches, on est shooté à la dépense publique ou encore les taxes, ça suffit. En 2022, elle quitte son parti Les Républicains pour rejoindre Horizon, propulsée vice-présidente du parti d'Édouard Philippe en 2024. La Sartoise qui a succédé à Bruno Retailleau à la tête de la région Pays de la Loire pourra-t-elle faire le lien entre les deux hommes pour 2027? Elle nous répondra. Bonjour Christelle Morancet.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation et merci à vous de nous écouter. Comme chaque samedi, nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. Cette semaine, mardi 10 juin, une surveillante a été agressée au couteau par un élève du collège Françoise Dolto en Haute-Marne. Elle est morte des suites de ses blessures. Vous, en tant que présidente de région, comment expliquez-vous ce genre d'événement?
Écoutez, moi j'ai vécu un drame similaire il y a quelques semaines sur Nantes. C'est une jeune fille qui est décédée, 57 coups de couteau par un jeune dans un établissement scolaire où il n'y a jamais de problème. Je pense que cette situation, bien évidemment, elle est dramatique. Moi, au moment où je vous parle, je pense bien évidemment aux familles, à l'ensemble aussi des chefs d'établissement qui subissent aussi ces situations. Il faut prendre du recul. Moi, ce qui m'interpelle depuis quelques jours et même quelques semaines suite au drame de Nantes, c'est la surenchère. Ce drame, avant tout, pensons aux familles, pensons à l'ensemble des communautés aussi éducatives et tombons pas dans cette surenchère. Il faut prendre du recul.
Quand vous parlez de surenchère, vous parlez sans doute de toutes ces mesures qu'on entend, qu'on déploie d'un coup parce qu'il y a eu cet événement sur les portiques, etc., qui parfois ne portent pas du tout leurs fruits, la preuve.
Oui, et puis sur chaque fait divers, il y a l'ensemble de la classe politique qui font des propositions, des yaka faucons. Non, la situation, elle est extrêmement grave, extrêmement difficile. Il faut prendre du recul.
Mais vous qui êtes élu local, vous n'êtes pas forcément responsable des collèges, bien sûr, ce sont les départements, mais des lycées, vous avez une appréhension du terrain qui est quand même particulière, Christelle Morançais. Est-ce que vous l'avez vu augmenter, cette violence chez les mineurs? Est-ce que vous l'expliquez par certains facteurs?
Il y a une augmentation de la violence, mais en général. Enfin, quand vous voyez le match du PSG il y a quelques semaines, c'est l'illustration aussi concrète, et notamment avec des mineurs. Je pense que la période Covid a également été extrêmement difficile pour les jeunes. Il y a un vrai sujet aussi de santé mentale. Maintenant, voilà, soyons vigilants, prenons aussi le problème à bras-le-corps. Il faut savoir aussi se poser et avoir une vraie réflexion sur ce sujet-là. Mais tombons pas dans cette surenchère et yaka faucon.
Est-ce que le gouvernement porte une responsabilité dans ce drame?
Écoutez, il ne faut pas laisser croire aussi que l'État peut tout partout. C'est bien évidemment dramatique. Maintenant, il y a un travail à faire, bien évidemment, au niveau de l'État, l'ensemble des collectivités. Hein, vous l'avez dit, nous, on a la responsabilité des lycées. Et puis, il y a aussi une responsabilité, là, je trouve qu'on n'entend pas beaucoup parler, celle des parents. Moi, je suis aussi mère de famille. J'ai deux garçons qui ont 16 et 18 ans. Et quand on est parent, on a aussi des obligations. Et je pense que ça aussi, c'est un vrai sujet. Il faut associer tout le monde.
Êtes-vous favorable, en tant que mère de famille, mais aussi en tant que femme politique, Christelle Morançais, à l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, comme le président de la République ou Gabriel Attal?
Écoutez, sur cette mesure, je suis très réservée. Je pense qu'on ne prend pas la bonne direction. Vous savez, le moyen de communication aujourd'hui des jeunes, ce sont les réseaux sociaux. Alors est-ce que c'est bien, c'est pas bien, etc. Enfin, dans chaque génération, voilà, il y a des moyens de communication. Et là aujourd'hui, on fait une proposition en disant on va couper les réseaux sociaux. Je pense qu'on peut pas s'y prendre plus mal si on veut se couper aussi de la jeunesse. Maintenant, d'avoir une vraie réflexion d'éducation, de formation sur les réseaux sociaux, je dis oui. Mais aujourd'hui, l'interdiction, et comment on s'y prend?
Et comment on s'y prend pour former sur les réseaux sociaux?
Mais il y a un rôle déjà des parents, de restriction au niveau des parents. Je vous disais, je pense que le rôle des parents, il est crucial. On peut pas laisser, il y a des jeunes qui sont laissés totalement à l'abandon, ils passent des heures et des heures sur les réseaux sociaux. Ça, c'est avant tout aussi de la responsabilité des parents. Et puis après, dans le système éducatif, vous voyez, nous, dans les lycées, moi, j'ai mis en place depuis 4 ans la dotation d'un ordinateur portable pour tous les jeunes qui rentrent en seconde. Et associé à ça, bien évidemment, on a tout un parcours d'éducation, notamment vis-à-vis des réseaux sociaux, du harcèlement, etc.
Et qui s'occupe de ça dans vos lycées?
Eh bien, on fait appel à des organismes, justement, qui sont spécialisés dans ce domaine. Donc,
que vous payez?
Bien évidemment. Enfin, c'est dans les actions éducatives qui sont pilotées par la région.
Celles-là, vous ne les avez pas supprimées?
Non, celle-ci, on est... voilà, c'est l'éducation, pour moi, c'est une priorité pour mon mandat.
Si vous voulez pas que je vous explique les raisons de mes choix, je trouve ça vraiment dommage. Parce que vous voyez là, vous voyez où on est là, le bâtiment où on est. On a mis 15 millions d'euros dans ce bâtiment, c'est pour vous. Vous savez pourquoi les choix que j'ai faits il y a quelques semaines, c'est justement pour nous permettre de continuer d'investir dans nos lycées. Est-ce que vous avez eu un ordinateur portable à la rentrée?
Ouais, merci.
Et bien justement, c'est pour permettre à des jeunes, 73% des jeunes dans la région des Pays de la Loire n'étaient pas dotés d'un ordinateur. C'est pour permettre de continuer ce dispositif. Alors il y a deux choix. Non, mais qu'est-ce qu'on fait dans une famille quand on a un petit peu moins de revenus qui rentrent? Eh bien on fait attention. C'est juste du bon sens.
La jeunesse en mer, Christelle Morancé, la jeunesse en mer, Christelle Morancé, la jeunesse en mer, Christelle Morancé.
Un extrait de votre discours au lycée Bellevue du Mans le 14 janvier 2025 lors de la cérémonie des vœux aux agents de la région diffusée sur la chaîne YouTube de Nilo 490, l'un des lycéens présents dans la salle. Alors vous faites sacrément chahuter ce jour-là, Christelle Morancet. On va y venir, c'est en raison des baisses drastiques de subventions dans votre région. Mais juste un mot sur la forme, vous êtes interrompu, vilipendé. On n'est pas dans une manifestation, on est dans l'enceinte du lycée, vous êtes à la tribune. Moi, tout de suite, je me suis dit, il n'y a pas un problème d'autorité aussi par rapport à ce qu'on évoquait juste à l'instant?
Là, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans ce lycée sur Le Mans, le lycée Bellevue, et je venais, comme chaque mois de janvier, présenter mes vœux aux agents dans les lycées. Ces jeunes ont en effet mobilisé l'enceinte où avaient lieu ces vœux. Et là, il y a une vraie responsabilité parce que on peut pas intervenir comme ça. Et ça a été un moment, je dois vous dire, assez difficile. Vous savez, on y reviendra certainement sur le budget, mais ça a été les jeunes. Moi, vous savez, je vais à leur rencontre tout au long de l'année. Sur les visites de rentrée, etc. Et j'ai mis en place au sein du conseil régional la promotion. C'est 100 jeunes issus de l'apprentissage, voie professionnelle, technologique générale ou l'enseignement supérieur. Et c'est une instance où je veux avoir un vrai dialogue avec eux et puis surtout les interpeller et les faire travailler sur les dispositifs de la région. Et le débat, quelles que soient les tendances politiques, et le débat, il est très apaisé. J'étais avec eux il y a encore 3 semaines. C'est très constructif. Mais là, c'est de la manipulation. Je vous dis, cette séquence-là, c'était une manipulation politique de l'extrême gauche, je vais les citer.
Ils ont l'air quand même tous...
Ah non, mais je vais vous dire...
Sur la vidéo, en tout cas.
Oui, mais j'ai deux fils qui ont été alertés par mail en disant « la présidente de région vient », et c'était signé « et les filles ». Et donc, avec tous les éléments de langage, et donc là, c'est de la manipulation vis-à-vis de la jeunesse. Et ça me dérange.
En tout cas, il n'y a pas que « LFI hein, » qui critique ce que vous avez fait en décembre 2024, qui vous a valu cette une de Libération que vous avez d'ailleurs, je crois, encadré, signe que vous assumez totalement.
C'est un cadeau de mon cabinet.
D'accord.
Pour mes 50 ans au mois de janvier.
La région Pays de la Loire présente Massacre à la création, avec vous caricaturé en Massacre à la tronçonneuse, le fameux film. Mais c'est vrai que vous y allez quand même assez fort. Hein. Vous allez même beaucoup plus loin que ce que vous demande à l'époque Michel Barnier pour réduire le budget de votre région. Vous supprimez ligne à ligne toutes les subventions de la région d'un coup.
Oui, et je l'assume parce que réduire la dette, nous le devons à nos enfants. Enfin, c'est une responsabilité collective. Ça fait des années, ça fait 50 ans qu'à la tête de l'État, on ne vote pas un budget à l'équilibre. Et aujourd'hui, oui, ces choix budgétaires, je les fais comme n'importe quelle famille, comme n'importe quel chef d'entreprise. Quand les recettes ne sont pas au rendez-vous, mais on fait des efforts. Et donc, ça voudrait dire que nous, collectivités ou l'État, on a aujourd'hui 100, demain on a 50 et on continue à dépenser 100. Non, moi, je m'y refuse totalement. Et donc, j'assume totalement ces choix politiques. Et les choix qui ont été les miens, c'est de baisser le fonctionnement pour maintenir un haut niveau d'investissement, parce que ça, c'est préparer la vie.
Mais est-ce que vous aviez anticipé les conséquences pour les associations, pour les clubs de sport,
pour les conséquences...
le milieu culturel, qui d'un coup se voient supprimer parfois 100 000 euros de subvention à un mois d'un événement?
Écoutez, enfin, les choix qui ont été les miens, on ne peut pas me reprocher d'avoir fait du clientélisme ou d'accompagner en fonction des étiquettes politiques telle ou telle association. J'ai supprimé l'ensemble des subventions, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire, quelquefois j'entends, elle a fait moins 73% dans la culture. Non, c'est pas moins 73%, puisque quand vous avez 100...
C'est 100% des aides à la création,
oui,
par exemple.
Oui, c'est toutes les subventions, c'est le modèle des subventions que j'ai totalement supprimé. Et c'est pas uniquement la culture, comme j'ai pu l'entendre.
Mais qui vous
parce que la culture et le sport, ça représente que 10%. C'est aussi dans l'économie, c'est aussi dans l'environnement, c'est l'ensemble des subventions qui ont été supprimées, encore une fois, pour maintenir un haut niveau d'investissement.
Mais qui vous a donné mandat pour tailler ainsi dans les dépenses de votre région, Christelle Morin ? C'est parce qu'en 2021, vous n'aviez pas du tout ce discours-là pendant la campagne. Vous déclariez la culture, le sport, la solidarité sont essentiels à nos vies. Nous soutenons nos artistes, sportifs, réalisateurs. Et puis ensuite, vous coupez les subventions, et ça, il vous l'a beaucoup reproché, au Festival du film d'Angers. Christophe Béchu, qui est pourtant dans votre parti, le maire, l'a beaucoup critiqué, cette décision.
Qui m'a donné mandat ? Mais encore une fois, la situation de 2021, et les mêmes aujourd'hui qui me critiquent, ou à chaque début de spectacle, qui disent tout le mal qu'ils pensent de la région des Pays de la Loire et de sa présidente, je ne les ai pas entendus, post-Covid, pour remercier la région sur l'accompagnement que la région a pu faire justement dans cette situation qui était délicate de la période Covid, l'accompagnement qu'on a pu avoir. Ou pendant des années où on les accompagnait, il n'y a jamais eu de remerciement. Sauf qu'aujourd'hui, la situation, nous n'avons plus les moyens d'accompagner ces structures, et ce n'est pas une compétence de la région. Donc le choix que j'ai fait, c'est l'investissement et surtout de pouvoir assumer les compétences de la région. Et donc, en responsabilité, aujourd'hui, je suis présidente de cette région, je me dois de gérer le budget de la région mieux que si c'était le mien, parce que ce n'est pas mon argent. Et donc, encore une fois, c'est par responsabilité, et ce n'est pas non plus un effet de zèle, comme de dire je fais plus que ce que le gouvernement. Non, il y a deux niveaux.
Mais permettez-moi, c'est vrai que vous avez fait plus.
Non, permettez-moi d'insister là-dessus. Les choix budgétaires que j'ai initiés, c'était même avant les annonces du gouvernement Barnier. Ce qui se passe, c'est que le budget de la région, et permettez-moi de passer un petit peu de temps pour que vos auditeurs comprennent bien, le budget de la région est préparé toujours à la période de l'été. En septembre, mes équipes administratives me donnent les projets.